This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période. Cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours de Charles Villa, qui est grand reporter et reporter de guerre pour Brut, le média que vous connaissez sans doute sur vos réseaux sociaux. Par son métier, Charles s'est retrouvé à filmer des images de conflits dans des zones très dangereuses et dans des pays en guerre. Il nous raconte comment il était lorsqu'il était enfant, et notamment il était dans ses mondes imaginaires, comment il est tombé dans World of Warcraft à l'adolescence, et comment les cybercafés dans lesquels il jouait à l'époque ont été pour lui une première fenêtre vers l'extérieur. Il raconte aussi comment, de ses envies de devenir pro-gamer à l'époque, il a fini par devenir amoureux des documentaires, et comment il est parti en Palestine pour filmer une mission humanitaire sans aucune boîte de production derrière lui, juste pour lui. Et comment par la suite, il a réussi à vendre ses documentaires au service public avant de rentrer chez Brut pour y créer dernièrement Brut Documentaire. Comment gérer son stress, comment gérer son environnement, comment on s'arrange pour aller filmer des cartels de drogue, autant de questions auxquelles Charles prend le temps de répondre dans cet épisode, et merci beaucoup à lui pour sa disponibilité. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Charles. On est avec Charles Villa, alors salut Charles!
Salut, bonjour à tous.
Bonjour à tous. Le mec est déjà conscient qu'il est en train de parler au monde entier. Et comment ça va?
Ça va et toi, Fab?
Ouais, très très bien. Est-ce qu'on pourrait te présenter comme reporter de guerre, c'est ça?
Je fais pas que du reportage de guerre, ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive régulièrement. Mais oui, je suis reporter de guerre et on utilise un terme plus générique, grand reporter.
Grand reporter.
Pour dire que je fais beaucoup de déplacements et que je suis spécialisé dans l'actualité internationale, en gros. Quoi.
C'est fou d'ailleurs que... Et c'est très bien qu'il existe encore des grands reporters, parce que l'un des trucs, on a l'impression dans la presse, on va dire ces 15-20 dernières années avec la crise de la presse, c'est que l'un des premiers postes qui a été coupé, entre guillemets, c'est souvent les postes de grands reporters.
Bah, c'est pas tant le statut de grand reporter qui est problématique, puisque c'est avant tout une grille salariale, le titre de grand reporter. C'est plus le grand reportage qui a tendance à disparaître, parce que ça coûte cher à faire, ça coûte plus cher à faire que des reportages en France. Et ouais, la crise de la presse a entraîné des baisses drastiques dans les budgets de production de toutes les rédactions, peu importe le type de média. Donc ouais, ça a tendance à devenir de plus en plus rare. Et c'est dommage, parce que c'est un peu, entre guillemets, ce qui fait les lettres de noblesse du journalisme, avec l'investigation, les enquêtes, tout ça quoi.
On va en reparler un petit peu, mais tu as aussi... donc déjà, tu bosses pour Brut, c'est ça? Donc,
ouais, je suis le grand reporter pour le média Brut sur les réseaux sociaux.
Voilà. Et en fait, tu as une particularité aussi de ton côté, c'est que tu es aussi réalisateur. C'est-à-dire que tu n'es pas juste grand reporter, c'est-à-dire dans le sens où tu es à la base un réal qui tourne des vidéos, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, en fait, bah, après, je pense que je fais partie d'une génération où on est un peu des couteaux suisses, quoi, ouais. Parce que... avec justement la crise dans les médias, la baisse des budgets, de plus en plus, parce que moi j'ai toujours fait de la télé, de plus en plus les équipes où il y avait trois personnes avant, c'est-à-dire un caméraman, un ingé son, un ingénieur du son et un journaliste, et bah ça coûtait beaucoup plus cher que par exemple moi tout seul qui fais tout tout en même temps. Ouais. Et typiquement aujourd'hui bah je filme, je réalise, je fais du drone, donc j'ai aussi un poste de droniste, je fais des stories, je fais des photos, je fais vraiment enfin tu vois, il y a 20 ans ça aurait été 5 postes en même temps quoi. Ouais. Que je fais, parce que je cale aussi mes sujets, donc je fais une part de production. Je gère mes budgets aussi tout seul, donc ouais, c'est on a été obligé de devenir couteau suisse. Et moi à la base j'étais JRI, journaliste reporter d'image, donc je filmais des reportages avec d'autres journalistes, sauf que je viens d'une école du documentaire en gros où j'aime bien l'immersion, j'aime bien quand j'arrive dans un endroit être complètement en immersion avec les gens. Et du coup, j'ai appris à tourner tout seul, à bosser tout seul. Et c'est comme ça que je suis devenu réalisateur de documentaires. Parce que je faisais mes documentaires pour la télé quasiment tout seul à chaque fois. Quoi.
Ouais. On en reparlera un petit peu après de ton, comment dire, de cet aspect couteau suisse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est, comme tu le dis, c'est un peu devenu une obligation vu l'économie des médias. Mais avant ça, la question que j'aime poser à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Charles quand il avait 7-8 ans?
Alors, quand j'avais 7-8 ans, j'étais j'étais un peu hyperactif, assez tête en l'air. Je m'ennuyais beaucoup, beaucoup en classe. J'aimais bien être dans des univers. Je lisais beaucoup de BD fantastiques, ouais. Des BD d'heroic fantasy.
Ok.
Et j'aimais bien, assez jeune, ouais, et j'aimais bien, ouais, m'enfermer dans mes petits mondes à moi. Parce que, ouais, j'avais du mal à l'école à être bien dans ma peau, quoi.
Ça te saoulait un peu l'école?
Ouais, ça me saoulait parce que. Il y avait des matières que j'aimais beaucoup. Et dans lesquels j'étais bon, et dès que ça me plaisait pas, bah je pouvais pas du tout suivre les cours ou pas du tout travailler ces cours-là. Après 8 ans, bon, c'est un peu jeune le primaire, mais j'étais très très tête en l'air. Souvent en classe, je me mettais dans mon monde et j'écoutais pas trop ce qui se passait, quoi. C'est pour ça que j'ai jamais été un très très bon élève, voire pas du tout, quoi.
En fait, l'école.
J'étais pas mauvais, mais j'étais pas du tout un bon élève, quoi. J'étais l'élève qui passait tous les ans avec la moyenne, quoi. Tu vois, un 9-10, un truc dans le genre.
Ouais, je vois. Tu sais que j'ai quand même beaucoup de mes invités qui, d'une manière générale, ont un peu de mal avec l'école, ou en tout cas, j'ai un peu l'impression que l'école a du mal à les intéresser, quoi. C'était un peu ton cas, non?
Bah oui, complètement. Après, je pense que c'est un truc qui revient assez souvent, notamment dans les professions un peu artistiques, tu vois, où on... Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas fait pour ces modèles éducatifs. Et moi, j'ai mis très très longtemps avant de savoir au final ce que je voulais faire. Je parle dans le collège et lycée, parce qu'une fois que je suis sorti du système classique scolaire, j'ai assez vite trouvé ce qui me plaisait. Mais ouais, je m'ennuyais profondément en classe, à part dans les matières qui m'intéressaient, c'était l'histoire, géo et les langues étrangères, le sport, quoi. Et tout le reste, j'avais du mal à accrocher, tu vois. J'ai fait une première ES parce que tout le monde me disait qu'il fallait faire ça, enfin, les parents, la famille.
Ah ouais,
quand t'es nul en maths, quand t'es nul en sciences, tu faisais ES, okay. Économique et sociale, et il s'avère à la fin de l'année, tu vois, j'avais 2 de moyenne en sciences économiques et sociales, j'avais 2 de moyenne en maths, donc j'ai fait un bac, en première j'ai passé mon bac en ES, et ensuite je suis passé en L en terminale parce que j'aurais jamais eu mon bac en ES, donc voilà, et j'ai eu un bac L très ric-rac, quoi. Et tu vois, vraiment pas l'élève modèle.
C'est marrant parce que, en fait, j'avais moi en tête que les sciences économiques, justement, c'était une sorte d'ouverture au monde, en tout cas telles qu'elles sont enseignées à l'école, quoi. Et que ça se rapproche assez.
Non, pas du tout toi. Ressenti comme ça. Moi.
Okay.
J'ai trouvé ça très très chiant. Après, c'est toujours aussi une histoire de prof.
Ouais.
Tu vois, je pense, mais les sciences économiques et sociales. Alors que c'est fondamental pour plein de problématiques aujourd'hui, et enfin pour bien comprendre le fonctionnement de notre monde mondialisé, bah Bah, ça aurait été bien que je sois bon élève là-dedans, pour même la profession que j'exerce aujourd'hui.
Mais, oui.
C'était imbitable à l'époque. Moi, j'arrivais pas à écouter quoi que ce soit. Oui, je comprenais rien. Tu vois, j'avais l'impression d'être en cours de maths, alors que c'était pas non plus ça, quoi.
Et t'étais toujours au lycée, donc perché dans tes mondes imaginaires, c'est ça?
Ouais, complètement. Tu sais, j'ai fait. En gros, quand j'étais en primaire, j'étais passionné de Pokémon. Après, quand je suis arrivé au collège, j'ai joué à Yu-Gi-Oh, Digimon, aux cartes Magic. Et après, quand je suis arrivé au lycée, j'ai découvert World of Warcraft.
Oh.
Et j'ai saigné World of Warcraft pendant très très longtemps. Et c'était mes mondes imaginaires à moi, quoi.
Ça devait pas t'aider à taffer, hein, pardon, World of Warcraft.
Non, ça devait pas m'aider à taffer. Par contre, ça m'a beaucoup aidé à sortir du milieu dans lequel je grandissais et tout, parce que j'allais souvent jouer aux jeux vidéo en cybercafé. Et les cybercafés, mine de rien, c'est les endroits où il y a toutes les tranches de population, toutes les classes sociales, tout le monde est au même endroit. Donc ça m'a c'était une belle ma première ouverture sur le monde, en vrai, ça a été les cybercafés là où j'ai grandi, quoi.
Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'en as retiré de cette expérience là?
Bah, des potes, et puis j'en ai retiré que je savais que je pourrais jamais faire des études classiques, que je pourrais jamais être enfermé dans un bureau, que je pourrais jamais apprendre un cours. Donc il fallait que je trouve un taf où j'avais pas à faire tout ça. Et sauf que, bon, bah, quand t'es mal orienté, quand on t'explique pas correctement les différentes options que tu pourrais avoir, quand t'es jeune, bah, moi, tu vois, quand j'avais 17 ans, en plus, à l'époque, il n'y avait pas d'économie derrière le jeu vidéo, ou très peu, il n'y avait pas de streaming. Moi, je voulais jouer aux jeux vidéo, en gros, et c'était pas possible. En plus, j'avais des parents qui détestaient ça, qui trouvaient ça hyper qui stigmatisaient beaucoup le jeu vidéo.
Ouais.
Donc je suis parti après le bac, je suis parti en droit, je suis resté 2 semaines, jour pour jour, je pense.
Wow.
J'ai eu un gros clash avec mes parents, et après, pendant plusieurs mois, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo. C'était les premières plateformes de streaming commençaient à arriver, donc ça m'intéressait beaucoup, sauf que bon, c'était voilà, il y avait pas d'économie vraiment.
Ouais.
Et je me suis rappelé, enfin, je savais que j'aimais le documentaire, que j'aimais la caméra, que j'aimais les images, le reportage, parce que je regardais beaucoup Arte quand j'étais ado.
Okay.
J'aimais beaucoup ça. Justement, les documentaires de découverte de nouvelles cultures, des pays d'Afrique, du Moyen-Orient. J'adorais les docus animaliers aussi. Donc voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça. Donc, sauf que j'étais l'année post-bac avait déjà commencé, et en fait j'ai trouvé un stage de comment ils appelaient ça, assistant plateau. En gros, okay. Je servais des cafés.
Okay.
À Public Sénat.
Okay.
Donc c'était la nouvelle chaîne du Sénat qui venait de se lancer. Ils cherchaient des stagiaires pour servir les cafés et tout, donc pour faire les larbins. Et j'ai fait 6 mois là-bas, et en fait, ça a été une super expérience, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à toucher à des caméras, j'étais au contact de journalistes professionnels qui traitaient des sujets quand même pas forcément évidents, autour de la politique, de l'économie, du social et du sociétal, et bah, ça m'intéressait en fait. Je passais beaucoup de temps, beaucoup plus de temps en rédaction qu'en plateau au final.
Okay.
Je traînais mon nez partout et j'ai pu faire des micro-trottoirs avec une caméra dès 18 ans en fait. Et après, en sortie de ce stage, j'ai fait une école de journalisme et j'ai commencé à travailler très, très tôt. J'avais 21 ans, j'ai eu mon premier contrat.
Okay.
Et j'ai ma carte de presse là depuis 9 ans. Donc j'ai commencé assez jeune, et une fois que je suis rentré dans le circuit du journalisme, en plus moi je savais très vite que je voulais faire que de la télé, parce que les autres médias m'intéressaient pas du tout, que ce soit la radio ou la presse écrite.
Ouais.
Donc j'ai fait une série de stages en télé, et j'avais beaucoup beaucoup d'expérience par rapport aux autres personnes de mon âge. Donc j'ai trouvé du travail très vite derrière, et depuis j'ai pas arrêté, quoi. Désolé, c'était un peu long.
Non, mais en fait j'étais sur le point de te couper, mais finalement je t'ai laissé dérouler, et c'était intéressant. En fait, j'avais juste une question qui me venait, c'était à ce moment-là, en fait, comment tu fais le lien entre ta passion pour les jeux vidéo et ta passion pour les documentaires à l'époque où t'as 17-18 ans, quoi, tu vois.
C'est un mélange de plein de choses, parce qu'en fait, moi, je jouais énormément aux jeux vidéo. Vraiment, je pouvais faire du 10 à 12 heures par jour sur un ordi. et en fait, t'es pas toujours en train de jouer à un jeu vidéo. Quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu consommes de l'écran comme ça, tu vas regarder des vidéos sur YouTube, tu vas regarder Facebook, tu vas regarder... à l'époque, il n'y avait que Facebook. Mais je consommais déjà beaucoup de YouTube, moi, à l'époque. Et du coup, je regardais de la vidéo. Je me suis dit, j'aimerais bien voir comment on fait pour filmer. C'est venu comme ça. Et je me suis dit, putain, j'aime bien le reportage. Le reportage en zone de conflit, je trouve ça incroyable. Donc c'est venu assez naturellement. Après, c'est vraiment en mettant les mains dans le cambouis que je me suis rendu compte très vite que j'adorais ça et que je trouvais ça super intéressant et que je voulais faire ça, tu vois.
Ouais, c'est ouf parce que...
Tu vois, c'est plus t'as des idées, parce comme le parcours scolaire ou le système éducatif ne t'explique pas toutes les possibilités qu'il y a dans la vie, tous les métiers qu'il y a, moi, je savais pas concrètement à quoi ça pouvait ressembler. Ça se trouve, si j'avais vu un grand reporter quand j'étais en troisième, j'aurais décidé de faire ça beaucoup plus tôt, tu vois. Mm-hmm. C'est juste là, c'est un peu le hasard des choses, le fait d'être en clash avec ma famille et de pas savoir quoi faire, tu vois, d'être complètement perdu, de passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo en sachant que c'est très stigmatisé, ça fait réfléchir aussi.
Ouais.
Donc c'est devenu c'est une succession d'événements qui a fait que je me suis rendu compte que ça pouvait me plaire et je peux dire que quand je suis allé faire le stage pour Serap des cafés, je me suis pas dit que j'allais trouver ma vocation.
Ouais. Enfin,
c'était plutôt un moyen d'avoir un peu de thunes pour finir mon année, parce que je gagnais 400 balles par mois et d'être pas loin de caméra, donc de voir un peu à quoi ça ressemblait, mais servir des cafés à des sénateurs, c'était vraiment pas le truc qui m'intéressait le plus, quoi.
Ouais, j'imagine. Si ça t'intéresse, je t'invite à, tu disais que ça faisait un petit moment que t'avais pas écouté des podcasts, à écouter l'épisode sur Felken, qui est l'un des meilleurs joueurs de français et mondiaux d'ailleurs, de Hearthstone, que ouais. Peut-être tu connais.
Ah, et... incroyable. Alors non, je connais pas Hearthstone parce que en fait, une fois que j'ai joué à World of Warcraft, j'ai jamais décroché, j'ai jamais pu jouer à autre chose.
Okay.
donc voilà, parce que ouais, une fois que t'as découvert l'univers de World of Warcraft, moi j'étais passionné d'univers fantastique, ouais. De Tolkien, enfin tu vois, des elfes, des orques, tout ça, c'était impossible. Enfin, il y a jamais eu de concurrent à World of Warcraft en MMORPG, donc c'était fini, quoi. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie sur ce jeu avant de faire ce métier.
Et en fait, je te racontais ça parce que, et c'est aussi pour les gens qui écoutent, c'est que il raconte aussi comment il a dû affronter ses parents par rapport quand il a voulu devenir joueur professionnel de jeux vidéo, quoi. Tu vois, c'est
ouais, ça doit vraiment être très dur. Et je pense qu'en plus, alors je pense que l'époque aide un peu aujourd'hui, parce que l'e-sport évolue très très vite et les mentalités évoluent très très vite sur le jeu vidéo. Mais je sais qu'il y a 10-15 ans. C'était pas du tout la même, alors qu'il n'y avait même pas d'économie, donc il n'y avait pas de joueurs pro, tu vois. Tout se passait en Asie quasiment, tout l'e-sport était en Asie, ouais. et tout ce qui se passait en France sur la scène française était hyper stigmatisé. Les joueurs de jeux vidéo pro étaient extrêmement stigmatisés. C'est grâce à Internet que tout ça a changé et au développement de l'économie du streaming et du jeu vidéo que l'image s'est améliorée et que les gens. Se sont rendu compte que oui, on peut en vivre et que c'est pas un problème et qu'on n'est pas on n'a pas une addiction obligatoirement à ça. Ouais, moi à l'époque, ça a été j'étais extrêmement en conflit avec mes parents et même avec la société avec la vision de la société sur le jeu vidéo, quoi.
Est-ce que tu joues encore aujourd'hui?
Bien sûr.
Tu dis ça avec un petit ton.
Bien sûr, je suis très très fier d'être un gamer, je suis un vrai gamer toujours et je passe beaucoup de temps quand je suis pas en reportage ou quand je suis chez moi, je joue pas mal et ça me fait vachement bien.
Ok. Écoute, je t'invite à découvrir Hearthstone si tu veux pas, parce que tu
carrément.
Sais, c'est l'univers de World of Warcraft, quoi, tu vois, de Blizzard. Donc,
ouais.
Il y a les persos.
Ça m'a jamais attiré
les jeux de cartes.
Côté jeux de cartes.
Ok.
Mais comme tous les autres, en vrai, j'ai une passion pour World of Warcraft.
pas voilà. Se décrocher. Ok, et c'est intéressant en fait parce que on a toujours l'idée du gamer qui est derrière son écran et qui est avachi et à manger des chips si tu veux. Alors ouais. que aujourd'hui, bah tu disais là juste avant l'interview que c'était compliqué pour toi le confinement parce que t'es jamais resté plus de 15 jours chez toi et que tu bouges quoi, tu vois.
Donc, ouais, ouais, moi je suis tout le temps en déplacement normalement.
Comment t'en viens à comment dire à basculer sur cette envie de voyage aussi de ton côté?
C'est mon métier qui fait ça. Moi, je suis vraiment spécialisé sur les questions d'actualité internationale. Ce qui se passe en France m'intéresse, mais beaucoup moins puisque tout ce qui se passe en France est extrêmement couvert. Et j'aime bien aller dans les endroits où peu de gens vont, où il y a peu d'informations, peu de journalistes, pour montrer la réalité de ce qui se passe là-bas. Et une fois que j'ai commencé à faire ça, bah, j'ai jamais réussi à décrocher, quoi. J'avais besoin de partir régulièrement. Puis tu tisses des liens dans les pays où tu vas, donc t'as envie. Moi, souvent, j'ai envie de retourner dans les pays où je suis allé. Pour voir les gens que j'ai rencontrés, pour voir comment leur vie a évolué, comment la situation sur place évolue. Donc, je saurais pas vraiment l'expliquer autrement que c'est une sorte d'appel, tu vois, de manière assez régulière. J'ai besoin de partir. J'ai besoin d'aller tourner dans les endroits qui m'intéressent. Et la plupart du temps, c'est à l'étranger.
Tu me disais donc, pour revenir un petit peu à ton parcours et au fait que tu as commencé à bosser assez tôt, que très vite, tu as fait des reportages toi-même tout seul, c'est ça, pour la télé?
Ouais. En gros, je suis arrivé dans une économie où le journaliste reporter d'image, donc ce qui était avant juste un caméraman, c'est devenu quelqu'un de triqualifié, c'est-à-dire qu'il pouvait filmer, poser des questions, faire son propre montage aussi. Donc, moi j'ai commencé à faire ça très jeune, donc c'est hyper formateur. Et surtout que j'ai pas mal bossé dans des chaînes qui font de la politique très tôt. Donc du coup c'est hyper formateur parce que t'es obligé de bosser un peu tes sujets avant d'aller interviewer un politique ou des experts entre guillemets. Qui ont des éléments de langage, si tu veux avoir des réponses un peu intéressantes, faut un peu bosser ces sujets. Et du coup, c'est très très formateur parce que voilà, à 20 ans, j'allais à l'Assemblée nationale poser des questions sur des sujets d'actualité avec ma caméra tout seul et mon micro, la caméra dans la main droite, le micro dans la main gauche. Et après, je rentrais et je devais monter mes sujets pour le journal le soir. Enfin, tu vois, c'est hyper hyper formateur le hard news au début pour apprendre à être réactif, à poser les bonnes questions. C'est ça qui a fait que je pense j'ai pris pas mal d'expérience très vite. Et puis après, une fois que j'ai voulu faire du documentaire, j'ai quitté mon taf. Je travaillais à la chaîne parlementaire, qui est c'est la chaîne de l'Assemblée nationale. Oui. J'ai posé ma DEM, j'ai pris avec mes jours de congé, parce que je prends jamais de vacances, je me suis acheté une caméra, deux billets d'avion et je suis parti en freelance à l'étranger pour réaliser des documentaires.
Quoi? T'es parti tout seul comme ça sans?
Ouais, je suis parti tout seul comme ça. Je vais rentrer dans le détail du truc, mais j'avais pas de contact en boîte de production, parce que ce sont des boîtes de production en général extérieures aux chaînes qui réalisent des documentaires qui sont ensuite diffusés sur la chaîne. Et vu que j'avais pas de contact, mais que je savais que je voulais faire ça, en gros, je suis parti. Mon premier déplacement, je suis parti en Palestine couvrir une mission humanitaire qui partait là-bas pour opérer des enfants qui ont été victimes de bombardements. Et sur place, je suis arrivé à un moment où ça a pété, donc un peu le hasard du truc. Et j'étais le seul journaliste à cet endroit-là à couvrir ces émeutes-là. Et du coup, j'ai ramené des images que j'ai vendues à France 5. Puisque j'étais le seul sur place, ça n'a pas été si dur que ça de trouver des gens qui cherchaient des images. Donc je suis rentré, j'ai mis un pied dans une boîte de production, je leur ai fait un sujet sur ce que j'avais filmé en Palestine, ils ont beaucoup aimé. Et derrière, je suis allé voir la responsable des documentaires. Ouais. Bonjour, je m'appelle Charles, je fais ça, je fais ci. J'ai un billet d'avion, je vais partir en Afrique subsaharienne. dans tel pays pour telle mission. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, j'irai quand même, sachez-le. Et ils m'ont pris un documentaire. Et ça a commencé comme ça.
Alors, attends, tu vas un peu vite parce que, en vrai, alors, t'as quel âge quand tu pars en Palestine comme ça, tout seul avec.
24 ans.
Comment tu fais pour. Concrètement, pour. Enfin, j'imagine que c'est pas aussi simple que je prends un billet et je pars, tu vois. Parce que. Bah, t'as des contacts.
En gros, j'ai contacté. Moi, je voulais couvrir donc, les zones de conflit. Et j'avais envie d'aller dans les hôpitaux de guerre. Dans les hôpitaux où on soigne les blessés, les civils qui sont victimes des guerres, des zones de conflit. Et j'ai pris contact avec une mission humanitaire qui partait opérer des enfants en Palestine. Je leur ai dit, voilà, je suis reporter. Votre mission m'intéresse parce que j'ai envie de raconter ce qui se passe là-bas. Je sais pas ce que je ferai de ces images-là, mais... là actuellement, je travaille pour LCP. Plus tard, enfin là, je vais partir en freelance. Je vais essayer de bosser pour le service public. J'aimerais bien vendre le reportage à Arte ou France 5. Et ça s'est fait comme ça. Je suis tombé sur un médecin qui a bien voulu m'emmener avec lui. Et il a eu raison puisque du coup derrière le sujet a été diffusé sur France 5. Et après c'était pareil pour l'Afrique subsaharienne. C'était une mission pour aller opérer des enfants qui souffrent d'une pathologie tropicale qui s'appelle le NOMA. Donc, c'est une maladie infectieuse qui attaque les tissus de la bouche, souvent chez les enfants, et qui laisse les os apparents. Enfin, en gros, c'est extrêmement stigmatisant, c'est très, très handicapant. Et dans les pays d'Afrique où le NOMA se développe, voilà, souvent les gens qui sont victimes de cette maladie très jeune, bah, ils ont du mal après à trouver du travail, à se marier, à fonder une famille, et dans ces pays-là, c'est des choses qui sont importantes. Donc voilà, et du coup, j'avais calé ces deux reportages-là, j'avais pris mes billets d'avion, et ça s'est fait comme ça. Après la Palestine, je suis rentré, j'ai monté le sujet Palestine pour France 5, je suis allé voir la responsable des documentaires de cette boîte de production, et je lui ai dit, c'était une petite dame incroyable, et qui, je sais pas, qui a dû voir quelque chose en moi, un jeune qui avait envie de faire du documentaire. Et même si j'avais pas d'expérience, elle m'a fait confiance. Et après, pour cette boîte de prod, j'ai fait une dizaine de documentaires dans la foulée pendant 3 ans.
Ok. Il y a une question qui me vient aussi, c'est qu'est-ce qui fait que à 24 piges, tu décides de partir directement dans une zone de guerre et une zone aussi chaude que la Palestine, alors que c'est quoi le lien en fait qui te dit ok? C'est là-bas qu'il faut que j'aille, quoi. Éventuellement même risquer ma peau parce que l'endroit est dangereux. Quoi.
Ah ouais. Écoute, je pense que la première chose, c'est que moi, j'ai toujours vu ce métier, j'ai toujours voulu faire ce métier-là pour faire ce type de reportage. Quand je travaillais pour le News en France, donc pour LCP et pour j'ai pigé aussi pour quelques autres chaînes, ça m'intéressait pas. Ce que je faisais, ça m'intéressait pas. J'aimais pas le format du news. Je détestais ça même. J'aimais pas la façon dont on traitait l'actualité dans le news. J'avais envie de faire du documentaire. Et j'avais envie de partir à l'étranger dans les endroits où il n'y a pas ou plus beaucoup de journalistes. Et je sais pas, c'est ça qui m'a poussé. Et en voyant que ce que je faisais avait intéressé des rédactions, et puis surtout de voir qu'un mec comme moi tout seul pouvait partir dans ces endroits-là avec son propre matériel et ramener les images à chaque fois, parce que c'est aussi ça, tu vois, tu peux essayer mais ne rien ramener aussi, parce que c'est particulier de travailler dans ces zones-là, c'est pas pareil que de bosser à Paris, tu vois. Donc à chaque fois que je partais, je ramenais des images, ramenais du contenu fort que peu de gens avaient, voire que j'étais le seul à avoir filmé, et c'est ça qui fait que derrière ça a continué. Mais moi j'ai toujours voulu faire le métier que je fais aujourd'hui, c'était mon rêve. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de chance parce que j'exerce le métier dont j'ai toujours rêvé.
Ouais, c'est cool.
J'étais pas heureux, j'étais pas épanoui dans le métier que je faisais avant de faire du documentaire. J'avais même songé à la reconversion, tu vois. Donc, Okay. Très jeune. Donc, en fait, je peux pas faire un taf qui me plaît pas ou dans lequel je suis pas épanoui. Mais comme plein de gens, hein. Mais moi, ça a toujours été un moteur. C'est-à-dire quand les cours me plaisaient pas, j'arrêtais. J'ai voulu faire du jeu vidéo, bah j'ai poussé le truc jusqu'au maximum. Et puis une fois que je me suis lancé dans le journalisme, je savais que je voulais faire de la télé, donc j'ai fait de la télé. Et dès que j'ai eu la possibilité d'arrêter ce que je faisais pour partir dans le documentaire, j'ai arrêté et je suis parti. J'ai commencé hyper jeune au final, le documentaire.
Ouais, 24
ans en général, les gens sortent à peine d'école, tu vois, de journalisme.
T'as quel âge aujourd'hui? T'as 30 ans, c'est ça?
J'ai 29 ans.
Okay. Très important, 29, pas 30. T'as bien raison.
C'est ça. Je vais fêter 30. Mais ouais, j'ai eu ma première carte de presse à 21 ans.
Ok.
Donc ouais, j'ai toujours su exactement ce que je voulais faire. Et ça, je savais que j'avais envie de le faire. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, je me suis dit, bah, il faut que je le fasse. J'ai un appel de ce truc-là. Et je me suis acheté une caméra et deux billets d'avion. Enfin, tu vois, ça pouvait être à perte totalement. Mm-hmm. J'aurais pu revenir de là-bas et rien faire de mes images. Donc voilà, c'était, je saurais pas te l'expliquer, mais c'était un besoin, c'était une envie que je pouvais pas retenir, quoi.
Il y a autre chose peut-être qu'il faut expliquer pour les gens qui nous écoutent et qui ont pas forcément de perspective sur ton métier, entre guillemets, c'est que t'es un JRI, c'est-à-dire que tu viens aussi pour filmer des images. Et comme tu le dis, en fait, contrairement à un reporter qui viendrait avec son ordinateur, son crayon et son carnet de notes, si tu veux, toi, si t'as pas d'image,
y a rien.
T'es broucouille, hein, vraiment.
Ouais, alors.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, c'est important. Enfin, je sais pas si les gens le savent, mais il y a des... Bon, ça plaira pas aux collègues, mais c'est quand même beaucoup plus dur de faire ce métier et d'avoir besoin de ramener des images, c'est-à-dire de filmer les gens, que juste d'aller à la rencontre des gens avec un crayon à papier. Mmh. Ça, c'est un métier qui est beaucoup, beaucoup plus difficile et qui demande beaucoup plus de temps aussi. Parce que il faut parfois montrer patte blanche, parce qu'une caméra, c'est visible, que ça plaît à personne, les caméras, particulièrement dans les endroits où je vais. Là où tu peux être beaucoup plus discret avec un crayon à papier ou juste un enregistreur vocal pour de la radio, tu vois. Donc oui, moi, dans tous les endroits où je vais, je pars avec une caméra, un drone et je vais là-bas pour ramener des images, des photos, des stories. C'est obligatoire.
T'as été filmé un cartel, c'est ça? Ça, c'est pareil.
Ouais.
Tu vas pas de la même façon, j'imagine, filmer un cartel de drogue quand t'as une caméra, ou par exemple aussi ton tueur à gages là, mexicain. Je mettrai les liens dans les notes du podcast.
Alors ça, je sais pas, parce que c'est des tournages qui sont préparés. C'est-à-dire, je sais exactement qui je vais rencontrer. Je discute en amont avec eux via mon fixeur. Donc les fixeurs, c'est nos contacts locaux pour organiser nos reportages, parce que par exemple quand je vais dans des pays où je parle pas la langue, bah j'ai besoin d'avoir quelqu'un sur place qui m'aide à traduire et qui m'aide à contacter des gens. Donc ça, c'est des sujets que je prépare longtemps à l'avance et en amont pour être sûr des personnes que je vais rencontrer et pour être sûr de ce que je vais pouvoir filmer et dans quelles conditions. Là où, par exemple, quand tu pars dans une zone de conflit, filmer entre guillemets la guerre en général, t'as énormément d'inconnus. Tu vois, t'arrives sur un terrain où bah tu vas pouvoir suivre peut-être quelqu'un, mais si t'es sur la ligne de front et que tu suis une zone de combat, bah à tout moment ça peut péter, à tout moment ça peut partir dans tous les sens. Tu peux décider de suivre quelqu'un parce que tu viens de le rencontrer, tu te dis putain son histoire est folle. Donc tu pars avec lui, il y a beaucoup plus d'improvisation. Là, pour le Mexique, c'était quand même préparé en amont. Et tout est passé par mes fixeurs sur place pour bien préparer le reportage. Comme ça, j'avais le moins de surprises possible en arrivant. Donc non, il n'y avait pas tant de... J'étais pas tant surpris du déroulé des événements sur mon tournage au Mexique. Est-ce que c'est clair? Je suis pas sûr d'être clair.
Si, je pense. Si. J'allais te demander justement comment tu fais pour tu parlais justement de tes fixeurs. Comment tu fais pour rentrer en contact avec un cartel de drogue, par exemple?
En vrai, ça c'est la réponse que je vais te donner. C'est quelque chose que tu peux appliquer à presque tous les pays dans lesquels on va, particulièrement les zones de conflit. Un journaliste français ne peut pas travailler sans fixeur dans une zone de guerre où il parle pas la langue et où il n'a pas de contact. C'est impossible. Donc on travaille tous avec des fixeurs. Donc souvent c'est des journalistes ou des traducteurs locaux. Là en l'occurrence c'était des journalistes mexicains qui ont du réseau dans les milieux criminels. C'est-à-dire que ça, si tu veux un bon exemple, si moi un journaliste américain voulait travailler en France et voulait rencontrer des gars qui font du deal en France, moi je sais qui appeler pour trouver le numéro d'un dealer ou pour rencontrer un dealer, tu vois. Donc c'est la même chose, mais à transposer au Mexique. Au Mexique, les milieux criminels sont extrêmement puissants. Il y a énormément de gens qui baignent dans le narcotrafic, donc c'est pas si dur que ça de trouver des contacts dans le narcotrafic. Et après, il faut connaître les bonnes personnes bien placées pour pouvoir avoir des accès. Et ça, après, il faut bosser avec les meilleurs fixeurs. Et moi, je travaille en général avec les fixeurs les plus compétents ou en tout cas ceux qui ont le meilleur réseau. Et c'est pareil en zone de conflit, tu vois, quand je travaille en Syrie, pour avoir accès à la prison où les djihadistes de l'État islamique sont enfermés, je passe par un fixeur qui a le contact du chef de la prison. Et après, c'est de la négociation, tu vois. Tu dis, voilà, je travaille pour ce média, on aimerait faire un reportage avec tel angle. Quelles sont les conditions pour pouvoir venir? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez envie de communiquer sur ce qui se passe dans la prison? Tu discutes, ça peut prendre du temps, quoi. C'est du calage, on appelle ça.
Il y a autre chose aussi dont je voulais te parler, c'est que tu es introduit, entre guillemets, dans le YouTube game depuis quelques années maintenant.
Ça fait pas longtemps, ouais. Ça fait 2 ans.
Un
an et demi, 2 ans.
T'as participé, enfin, t'as emmené des youtubeurs, des gens qui ont une certaine audience, en fait, sur des
zones de conflit, voilà, des crises humanitaires.
C'était quoi ton idée?
Pour l'expliquer simplement, c'est qu'en gros, moi, j'ai toujours consommé du YouTube. Je connais bien le YouTube game français et je connaissais le travail de beaucoup de vidéastes. Et moi, j'ai toujours pensé que y en a beaucoup qui font parfois un meilleur travail que certains journalistes. Et tous les vidéastes qui font de la vulgarisation en France font en général des contenus de qualité et que moi, je regardais. Et je me suis toujours dit, ça serait hyper intéressant d'emmener ces mecs-là avec moi pour que eux ils en parlent sur leur propre plateforme, souvent à des communautés, à des gens qui ne regardent plus du tout les médias traditionnels. Et ça, moi, je l'ai ressenti. Donc ça, c'était avant d'arriver chez Brut. Je le ressentais parce que quand j'ai commencé à faire mes documentaires, je travaillais que pour Arte et France 5, où la moyenne d'âge, c'est entre 60 et 70 ans de l'audience. Et c'est pas du tout la cible que moi, je voulais toucher. Je voulais toucher mes potes, tu vois, les gens de mon âge, les générations qui vont faire le monde de demain. Sauf qu'avant Brut, il n'y avait pas beaucoup de médias qui parlaient de ça sur les réseaux sociaux, voire aucun. Quand je bossais à la télé, je m'étais dit, putain, ça serait bien que je me crée une chaîne YouTube. Sauf que tout ce que je filmais, vu que c'était destiné à la télé, il y avait des questions de droits d'auteur.
C'était pas pour toi.
Je pouvais pas utiliser mes images pour aller sur pour en faire mon propre contenu sur YouTube. Mais en vrai, moi, j'ai voulu me créer une chaîne YouTube très très tôt dans ma carrière, mais c'était juste qu'avec les droits télé pour des questions d'argent, je l'ai jamais fait. Et puis j'étais occupé, je travaillais, mais savais qu'il fallait commencer à produire de l'information sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube, où il y avait aucun média qui développait du contenu dédié à la plateforme. C'était vraiment soit une rediff d'émission, et encore, c'est que très récent qu'ils font ça, et pas tous encore. Donc voilà, moi, je cherchais sur YouTube du contenu, et personne n'en faisait. Le premier à avoir fait, dans le YouTube français, des sujets qui pouvaient s'apparenter à du journalisme adapté façon YouTube, c'était le Grand JD. Mais c'était aussi parce qu'il travaillait avec la RTS sur des reportages à l'étranger. Et lui, il pouvait en faire son propre contenu sur sa chaîne derrière. Et c'était génial, parce que tu avais à la fois un reportage pour la télé, une vidéo sur sa chaîne. Et du coup, ça démultiplie les audiences. C'est-à-dire que tu vas chercher les publics un peu plus âgés, et grâce à YouTube, tu vas chercher les jeunes. Et en gros, moi, c'est ce que j'essayais de faire depuis très longtemps. Et quand Brut m'a approché, bah, j'ai pas hésité une seconde, quoi. Donc, pour en revenir aux YouTubeurs, dès que je suis arrivé dedans, je leur ai dit voilà, c'est génial Brut, voilà, c'est génial ce que vous faites. Et même eux, les boss de Brut avaient la même vision que moi. C'est-à-dire qu'ils savaient que il fallait qu'on trouve des manières de travailler avec les vidéastes. Donc, soit de les emmener avec moi dans mes reportages, soit de mettre en avant les contenus de qualité sur la plateforme. Peu importe les sujets, tu vois, à partir du moment où éditorialement, ce qu'ils racontaient, c'était un sujet dont on entendait peu ou pas assez parler dans la société, moi j'essayais de faire en sorte qu'ils puissent venir sur Brut pour parler de ce sujet-là, comment ils l'avaient traité et le mettre en avant par le prisme de Brut. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, j'ai emmené des vidéastes avec moi. Le premier que j'ai emmené en déplacement, c'était Simon Puech, au Tchad, sur la famine. Et c'était pas un premier déplacement facile pour lui, ni pour moi, d'ailleurs. Mais c'était... D'ailleurs, il a fait une vidéo qui a bien marché, qui était hyper intéressante sur la famine là-bas. Et que c'était le type de contenu qui avait jamais été fait sur la plateforme. Et nous, on a fait du contenu sur Brut, sur Facebook, et ça a très bien marché aussi, quoi. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire.
Pourquoi tu dis que c'était pas facile pour toi? J'imagine que de partir à deux plutôt que de partir tout seul, ça complique donne, c'est ça?
C'est pour ça. Moi, j'aime bien. En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je venais de l'école du documentaire et ma passion c'était le documentaire, et en venant chez Brut, je suis passé à des formats un peu plus courts. Alors aujourd'hui c'est plus le cas parce que j'ai développé Brut Documentaire, mais quand je suis arrivé chez Brut, je faisais pas des documentaires pour Brut. Je faisais des formats un peu plus courts ou des séries de vidéos qui étaient beaucoup plus courtes. Donc je passais de 35 minutes à 4 minutes, tu vois. Donc c'était hyper frustrant pour moi, déjà il y avait ça. Et puis à côté de ça, ouais, c'était pas facile de partir avec quelqu'un. Parce que j'aime bien être tout seul. Vraiment, t'as pas du tout la même immersion quand tu pars à deux ou à plusieurs que quand t'es tout seul. Et quand je partais tout seul aussi, je gérais mon emploi du temps d'une autre manière. C'est-à-dire que si je voulais rester deux semaines, je pouvais. Tu vois, c'est moi qui me gère. Quand je pars avec un vidéaste, soit il est dispo sur les deux semaines, soit il a un emploi du temps un peu plus chargé quand tu pars avec des gros vidéastes, par exemple, et c'est plus compliqué. Et après, sur le terrain, c'est aussi pour ça que je peux pas les emmener n'importe où non plus. C'est que il faut que les conditions de sécurité soient extrêmement carrées, extrêmement bordées. Parce que je suis avec quelqu'un qui n'est pas reporter, qui n'est pas reporter de guerre, qui ne sait pas exactement comment il va réagir s'il y a le moindre problème d'insécurité. Et c'est pas une sensation très agréable pour moi parce que je sais me gérer. Je sais gérer les situations de stress, et tu peux emmener quelqu'un qui peut péter un câble au moindre problème. Ouais, et c'est le genre de truc qu'il faut éviter impérativement dans les endroits où je vais en général. C'est pour ça que, même si j'en ai emmené certains dans des endroits qui sont considérés comme très dangereux, je les ai emmenés dans des cadres qui sont extrêmement bordés d'un point de vue sécuritaire.
Comment t'as appris justement à gérer le stress dans les moments un peu chauds que tu as sans doute dû vivre dans tes reportages?
En vrai, c'est l'expérience. Moi, quand je suis parti sur mes premières zones de conflit, je ne savais pas si j'aurais pas peur ou si ma peur allait pas devenir paralysante dans certaines situations. Donc déjà, je pense que tu as une première étape en te disant « j'ai envie d'aller couvrir ces endroits-là ». Une fois que tu arrives dans ces endroits-là, tu te rends compte très très vite si tu peux gérer la pression, le stress ou la peur que peuvent générer ces endroits-là. Si tu n'en es pas capable, en général, tu arrêtes très vite. Et si ça fonctionne et que tu arrives à continuer à faire ton travail et à ramener du contenu tout en restant professionnel, respectueux des gens là-bas, ça veut dire que tu peux travailler dans ces zones de conflit-là. Et après... t'es jamais préparé aux situations de danger. Tu vois, tu peux réagir différemment à un mec qui va te braquer une arme sur la tempe qu'à un bombardement qui tombe à 100 mètres de toi. Et tout le monde réagit différemment. Enfin, c'est très, très subjectif, la gestion du stress, la gestion de la peur dans ces endroits-là. Moi, j'ai été confronté à plusieurs types de choses et j'ai jamais franchi la limite où je me suis dit « Putain, qu'est-ce que je fous là? Faut que je me casse. » Tu vois, j'ai plus rien à faire là, donc... Tant que t'en es pas là, je pense que ça veut dire que tu sais te gérer, mais n'importe quelle, enfin une situation demain, je sais que il peut se passer un truc qui fera que j'arrête. Ouais. Donc voilà, c'est, je pense pas qu'on est, on se prépare pas à ça, et c'est l'expérience qui fait que tu prends l'habitude de te comporter, d'évoluer dans ces milieux-là.
Ouais, je vois.
Tu vois, mon premier déplacement, j'arrive en Palestine, ça pète, il y a une intifada locale, et je me retrouve côté palestinien dans une intifada où tu as des gamins qui lancent des pierres et l'armée israélienne qui tire des balles en caoutchouc sur les gens ou des balles réelles. Donc, ça a été gros baptême du feu. mais je me sentais pas... je me sentais pas à ma place. Je vais pas dire que je me sentais à ma place, mais je savais que quand je filmais cette situation-là, c'était important ce que je faisais. Parce que j'étais le seul sur place, parce que les images que je filmais étaient folles. Et voilà, donc tu vois, je me suis dit, ok, ça a du sens. Je sais pourquoi je suis là, je sais que les images que je vais ramener sont importantes. Donc, je vais faire ça.
Et t'as pas forcément notion du danger sur le moment, c'est ça? Parce que t'es plutôt...
Si. Je pense que, justement, une des qualités les plus importantes pour un reporter qui travaille dans les zones de guerre ou les zones de conflit, c'est la notion du danger. Savoir dire quand il faut arrêter de filmer, savoir dire quand il faut partir. Même s'il y a plein de choses... Enfin, tu vois, il y a des reporters qui sont très, très bons sur le terrain... Et qui sont morts parce que il y a eu des accidents comme marcher sur une mine, parce que dans ces pays-là, dans ces endroits-là, souvent il y a, enfin tu vois, il y a plein de facteurs que tu peux pas maîtriser. Mais un des trucs que tu peux maîtriser, c'est comment tu te gères. Et moi, vu quand je travaille tout seul, c'est moi qui décide de ce que je fais. Donc si je dis là c'est trop dangereux, on s'en va. Tu vois.
Ouais, je comprends.
La notion du danger, c'est hyper important. C'est savoir quand est-ce que là, peut-être, c'est un peu trop dangereux, ou quand est-ce que, oui, on peut quand même continuer, mais sous certaines conditions. Mais tout est situationnel, tu vois. Tout est situationnel. Chaque jour est différent. Chaque endroit est différent. Je passe ma vie à analyser des situations quand je suis dans les zones de conflit. Je pense que la différence entre les bons et ce qu'on pourrait dire, appeler mauvais reporters de guerre, ça va pas être... Ça va surtout être une question de respect des gens sur place et de savoir gérer son stress et la notion du danger. Là où un mec qui est un peu tête brûlée, qui se dit « si, on y va parce qu'il faut ramener des images, machin », et qui met en danger son fixeur, qui met en danger les gens autour de lui, c'est ça qui va faire la différence. Et j'en ai fait l'expérience, parce que moi j'ai fait des erreurs sur le terrain, j'ai poussé à certains moments aussi, et c'est ça qui fait que tu comprends, enfin que tu t'améliores aussi dans ce métier-là.
Qu'est-ce qui fait que
je digresse tout le temps, je sais non, pas non, si c'est clair. Mais...
Ben non, ça m'intéresse, t'inquiète pas, je te coupe si jamais c'est chiant, mais c'est pas le cas, okay. Donc t'inquiète pas.
Non mais j'ai une pensée un peu en arborescence, j'ai des idées qui viennent tout le temps.
Je te vois.
Donc
je te vois.
J'arrête pas de parler.
Je te vois fonctionner, t'inquiète pas. Mais l'objectif c'est que tu parles aussi, tu sais, c'est ton interview, donc t'inquiète pas, ne t'excuse
oui,
pas de parler. Non, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui t'a incité dans les moments où t'as poussé à pousser justement.
L'importance du sujet à mes yeux, je pense. Parce que les fois où j'ai poussé, c'était quand même pour des sujets qui comptaient beaucoup à mes yeux. C'était au Moyen-Orient, dont un en Irak, sur un documentaire que j'ai réalisé sur les charniers de Daesh, dont j'ai déjà parlé sur Internet. Mais voilà, c'était un documentaire hyper important à mes yeux, parce que j'avais l'impression de traiter une des problématiques les plus importantes pour l'histoire de l'Irak, pour l'histoire moderne de l'Irak, et pour les familles qui ont été victimes, je parle des familles sur place, qui ont été victimes de l'État islamique. Et je voulais ramener, des choses qui, voilà, qui étaient dangereuses à aller chercher, et j'y suis allé, et je l'ai un peu regretté après parce que, voilà, je me suis mis en danger, mais j'ai aussi mis en danger la vie de mon fixeur et des gens qui m'ont accompagné ce jour-là, et je sais que c'est moi qui ai pris la décision d'y aller. Donc voilà, derrière, ça fait réfléchir parce que ça aurait pu très mal se finir ce jour-là.
Tu le ferais comment autrement si tu devais le refaire aujourd'hui avec l'expérience ?
Je le raconterais d'une manière différente, sans avoir besoin d'aller chercher les images à cet endroit-là.
Ok. Tu penses que c'est possible ?
Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est juste que évidemment, c'est beaucoup plus fort avec les images. C'est beaucoup, beaucoup plus fort avec les images que j'ai ramenées. Parce que, voilà, c'était... En gros, j'enquêtais sur les charniers de Daesh. Les charniers, ce sont les fosses communes dans lesquelles l'État islamique a balancé des dizaines, voire des centaines de cadavres de personnes innocentes. Et la plupart des charniers en Irak n'ont pas été ouverts ou commençaient à être ouverts. Et c'est un moyen pour les... famille des victimes, de retrouver les corps et de leur donner une sépulture décente, ce qui est très important dans ces pays-là, particulièrement dans la religion, dans l'islam. Et voilà, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose de très important pour ce pays, pour l'information dans ce pays. Et voilà, j'ai ramené des images de charniers qui étaient très dangereux parce qu'ils étaient minés. Et je savais qu'ils étaient minés, mais okay. Vu que j'étais à côté, j'avais envie d'aller filmer. Et voilà, les images, il y a beaucoup d'images que j'ai censurées parce que c'était trop dur à montrer trop dur à montrer, c'est le mot. Voilà, d'images d'enfants, d'adultes qui ont été assassinés par Daesh. Et quand j'étais dedans, je me posais pas la question. Je savais que les images que je tournais étaient dingues, étaient hyper importantes. Et je regardais pas assez autour de moi les gens qui me regardaient filmer, quoi.
Ah, je comprends.
Voilà.
C'est une bonne leçon. Justement, je voulais te demander, c'est quoi pour toi les trois leçons que tu retiendrais de ton parcours ?
C'est compliqué comme question. Enfin, c'est pas vraiment des leçons de vie, hein. C'est plus des choses que moi j'ai appris sur le terrain.
Oui.
Souvent, tout n'est pas noir et blanc. Particulièrement dans ces endroits-là. Il n'y a pas forcément les bons et les méchants d'un côté. Attends, je réfléchis.
Vas-y, prends le temps. Hein. J'aurais dû te l'envoyer avant, en fait.
Non, mais enfin, c'est plein de choses. C'est juste après, en fait, c'est des choses qui sont tellement personnelles que ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde, ça ne peut pas s'appliquer à tout.
Bah, souvent, les trucs très personnels, tu sais, sont très universels, en vrai. C'est un truc que j'ai remarqué avec le temps.
En fait,
t'en as donné plein. Hein, dans l'interview, t'en as donné plein.
Tu vois, ce que je dis souvent aux gens, c'est si tu veux comprendre ce que j'ai envie que les gens comprennent de mon métier, de ce que je comprends moi sur le terrain, voilà, il faut regarder mes documentaires. Quoi.
Oui. T'es fort, bravo.
Non, mais c'est ça, c'est que oui, je raconte beaucoup mieux en images.
Oui,
je raconte beaucoup mieux, je manie pas très bien les mots, j'ai jamais su très bien manier les mots. Par contre, je pense que j'ai toujours eu un truc avec raconter le quotidien des gens et leur laisser raconter leur vie, donc en tout cas d'une manière respectueuse. Et c'est ça qui, je pense, est souvent ressorti dans mon travail, c'est que...
Tu mets aussi pas mal en scène ton reportage, justement. Je trouve que c'est intéressant.
Je mets pas mal en scène ?
Ouais, en fait, tu racontes pas mal aussi. Enfin, tu vois, on te voit à l'image.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. C'est l'incarnation. J'ai amené l'incarnation chez Brut. Après, parce que je sais que ça a un intérêt sur les réseaux sociaux et sur YouTube, mais je préfère le reportage sans incarnation.
Ouais.
Je préfère quand il n'y a pas de journaliste et quand on s'efface pour laisser la parole aux gens qu'on va voir sur le terrain. Et je trouverais ça toujours beaucoup plus fort le documentaire désincarné. Après, bah, je sais que l'incarnation apporte de la visibilité au sujet que je traite et rien que pour ça, ça en vaut la peine parce que l'objectif principal, c'est que les endroits que je filme, les endroits où je vais, c'est que ça touche le plus de monde possible pour que les gens se rendent compte de certaines réalités qu'on voit plus trop dans les médias traditionnels et qu'on voit très rarement sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça qui fait que mon travail intéresse les gens qui me suivent, c'est que voilà, ils ont l'impression de renouer aussi avec une forme de journalisme plus humain, humaniste et de terrain. On est vraiment au contact des gens et c'est ça que, enfin, c'est vraiment ça qui me pousse à faire ce taf-là. Donc j'ai pas vraiment trois leçons, mais c'est dans mon travail, dans mes documentaires au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne, je pense que je fais passer beaucoup de moi dans mes documentaires.
Ouais, j'allais te dire, j'ai un peu l'impression que si tu fais un docu sur un sujet qui t'intéresse pas trop, ça, t'as pas trop envie de le faire finalement.
Ouais. Complètement.
Et c'est bien, hein, tu vois.
Ça se ressent. En vrai, je vais pas te mentir, ça se ressent très vite derrière en montage. Quand je suis assez passionné, moi. Enfin, je suis vraiment passionné par ce métier. Et enfin, tu vois, par exemple, ça fait 2 ans que j'ai pas pris un jour de repos.
Ah ouais.
Et c'est pas grave et ça me gêne pas parce que j'ai beaucoup de chance et que je fais vraiment le métier qui me passionne et que je vais dans des endroits où j'ai envie d'aller. Mais c'est voilà, c'est un métier qui, pour moi, si tu peux pas le faire correctement si t'es pas investi à 100% et si tu sens pas qu'il y a une mission derrière, tu vois.
Ouais, je comprends.
Moi, je considère vraiment le journalisme comme un des métiers les plus importants au monde et je suis extrêmement fier de faire ce métier-là. Je défends ce métier bec et ongle. En France, on a de la chance parce qu'on a un journalisme excellent, je pense un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur du monde. On a des reporters partout dans tous les pays quasiment qui prennent des risques fous pour nous ramener une information de qualité. On a plein de médias qui font des investigations incroyables, que ce soit nationales ou internationales, qui prennent beaucoup de risques. On a des lanceurs d'alerte. Enfin, tu vois, on est vraiment ultra privilégiés en France. Après, c'est juste que cette information-là n'est pas la plus consommée ou la plus regardée. Et j'essaye de par ce que je fais et de par la chance d'avoir, que j'ai de travailler pour le média le plus puissant sur les réseaux sociaux en France, j'essaye de faire un peu le joint entre ce métier passion et les gens, je pense, qui ont une attente, tu vois, autour de ça, du journalisme de terrain. Moi, je sens, tu vois, que les gens sont contents de voir mes images, de voir les gens que j'interview. Souvent, tu vois, enfin un gars qui va sur le terrain, enfin. Et la réalité, c'est que non, enfin, on a des reporters qui produisent du contenu partout dans le monde tous les jours. C'est juste que ça va pas forcément sur YouTube ou ça va pas forcément sur Twitter, Insta, c'est pas forcément adapté aux réseaux sociaux. Mais ça existe, c'est juste les gens le consomment pas forcément, quoi.
Ah, c'est sûr. Mais tu fais bien de le dire parce que on a souvent tendance et surtout sur les réseaux sociaux, à décrier les médias et les chaînes de télé, notamment quand elles font pas du bon taf, si tu veux, et quand il y a des trucs bien, il faut pas hésiter à le dire, quoi.
Donc, bah ça... ouais. Ouais, ce que je dis souvent en exemple, c'est tu vois, sur le service public en France, on a beaucoup de chance, il y a beaucoup de gens qui crachent sur le service public, mais combien d'entre eux regardent les cases d'information de documentaires de France 5, Arte, France 2, France 3 ? Combien de personnes regardent Le Monde en Face, Infrarouge, Cache Investigation, Pièce à Conviction, Arte Reportage ? Enfin, là, le temps qu'on a eu de cette conversation, bah, y a peut-être deux grands reportages qui sont passés sur Arte dans des endroits incroyables. Donc voilà, on a beaucoup de chance en France et pour avoir perdu des collègues aussi sur le terrain, enfin tu vois, c'est en France, il y a des gens qui se battent pour que l'information reste de qualité et faire en sorte que, enfin, il y a beaucoup de gens qui se battent pour que les gens soient bien informés. Donc donc ouais, il faut le défendre, ça. Enfin, c'est ce que j'essaie de défendre Je ne sais pas si je le fais très bien, mais en tout cas, j'essaie de le faire du mieux que je peux sur les réseaux sur lesquels je travaille, quoi.
Bah, ça fonctionne parce que tu disais justement que vous avez donc, t'as donc lancé Brut Documentaire sur YouTube. Donc, si je me trompe pas, c'est des docus un peu plus longs qui font un format plutôt 15-20 minutes, quoi, par rapport à ce que qui se passe plutôt sur Facebook habituellement. Et tes reportages marchent plutôt très bien, quoi. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ton tueur à gages mexicain là qui a 2 millions de vues, c'est ça? C'est fou.
Alors, il a 2 millions de vues sur YouTube, il en a 3 millions sur Facebook, 2 millions sur Snap, et je sais plus combien sur Insta. Donc ouais, il a vraiment fait le tour de la France, et ça c'est cool. Je sais qu'il cartonne aux États-Unis aussi, il a fait plusieurs millions de vues. Après, le tueur à gages, c'est pas le sujet le plus passionnant que j'ai pu traiter. Ça m'intéressait d'aller faire du reportage au Mexique sur ces thématiques-là parce que j'y connaissais pas trop et je voulais voir concrètement ce qu'il en était sur le terrain, c'était quoi la réalité du narcotrafic et de la violence là-bas. Ouais. Après, c'est pas les sujets que j'ai l'habitude de traiter. Je suis plutôt en général dans les hôpitaux avec les victimes de ces gens-là et je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant que les personnages que j'ai pu rencontrer au Mexique. Qui n'y parle que de violences gratuites. Voilà, c'est intéressant parce que je pense que ça montre un pan de cette violence qu'il faut voir pour se rendre compte à quel point il y a une part de folie et aussi de misère qui justifie cette violence. Mais c'est pas les sujets que je préfère personnellement et c'est pas ceux que j'ai le plus envie de mettre en avant.
Okay. Après si voilà, c'est lequel par exemple,
c'est qui cartonne?
Ouais.
Pardon.
Non mais c'est surtout le dernier en date, mais ça serait quel docu qu'on pourrait recommander à nos auditrices et nos auditeurs? T'avais fait un truc sur le Yémen aussi, c'est ça?
Ouais, j'ai réussi à aller au Yémen pour parler de la guerre là-bas et pour expliquer aux gens comment cette guerre impacte les civils sur place, en sachant que c'est important parce que nous on a un rôle dans cette guerre-là en vendant des armes à plusieurs belligérants et concrètement on a un rôle, notre pays a un rôle dans cette guerre, donc c'est important d'en parler. En général, tous les documentaires que j'ai pu faire sur n'importe quelle zone de conflit, je suis passé par le prisme humanitaire, le prisme des civils. Donc, il y en a pas un qui a plus d'importance que les autres. J'ai beaucoup d'affection pour le documentaire que j'ai réalisé sur la famine au Soudan du Sud. Parce que c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué. J'aime beaucoup le documentaire Les Charniers de Daesh. Là aussi, c'est un documentaire qui a changé pas mal de choses en moi. Et après, la série des documentaires que j'ai réalisés pour Brut, en Afghanistan, au Yémen, en Centrafrique, plus récemment aussi sur les mouvements sociaux un peu partout dans le monde, à Hong Kong, au Chili, de la jeunesse. Je pense que ça donne une bonne vision de à quoi ressemble notre monde aujourd'hui et la jeunesse de notre monde.
Ok. Avant que tu démarres cette interview, tu me disais que ton métier allait être compliqué à faire avec cette pandémie et le coronavirus.
Ouais.
Déjà parce que t'es scotché chez toi.
Oui. C'est dur. Mais bon. C'est dur, mais bon, c'est important de rester chez soi. Moi, pour avoir traité beaucoup, beaucoup d'épidémies de maladies infectieuses un peu partout dans le monde, je sais à quel point c'est primordial d'écouter les autorités sanitaires, leurs recommandations, de respecter le travail des médecins, du personnel de santé, des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, des ambulanciers. Enfin, c'est vraiment eux qui sont en première ligne sur cette épidémie. Donc voilà, c'est vraiment le minimum syndical que je puisse faire que de rester chez moi et de, même si je suis pas malade, je sais pas si je suis porteur du virus ou non, si je suis asymptomatique, et c'est le minimum que je puisse faire de pas le propager en continuant à tourner ou à partir à l'étranger où je risquerais même de l'amener dans un endroit, ce qui serait complètement irresponsable. Donc voilà, je suis confiné, mais c'est pour des bonnes raisons.
T'espères pouvoir reprendre bientôt? du service?
Oui, bah, évidemment. Mais après, je pense pas que je pourrais reprendre une activité normale avant au moins la fin de l'année, si on est réaliste. Donc voilà, en sachant qu'il faut attendre que les frontières s'ouvrent à nouveau. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'endroits où j'aimerais aller pour traiter notamment le coronavirus en dehors de nos frontières, mais c'est risqué. Et voilà, je vais attendre patiemment comme tout le monde. Et ouais, c'est avant tout pour respecter. Parce que tu vois, en fait, au cours de mes missions, j'ai toutes mes missions expliquent et montrent, à mon sens, à quel point la santé c'est le socle d'une nation. Avant tout le reste. Quand la santé ne tourne pas, quand la santé ne fonctionne pas normalement, ou quand il n'y a pas de système de santé, le pays ne fonctionne pas normalement, ou le pays est en crise humanitaire. Là, on le vit, c'est très concret, on vit une grave crise humanitaire. Notre système de santé est débordé, n'était pas préparé, l'hôpital public n'était pas préparé à cette épidémie. Avant tout parce que l'hôpital public se fait détruire depuis plusieurs quinquennats, mais on voit que tout est à l'arrêt. Et tous les pays où je suis allé, quand je suis allé traiter Ebola au Congo, quand j'ai traité le choléra en Ouganda, au Malawi, au Soudan, toutes ces, et le palu, la rougeole, j'en sais rien, mais toutes ces maladies-là empêchent les économies de fonctionner, empêchent le politique de fonctionner normalement, tout ce qui touche au social et au sociétal se retrouve complètement bouleversé, les interactions entre les gens se retrouvent complètement bouleversées. Donc voilà, pour ça, il y a une chose, c'est on écoute les médecins. Et on est patient.
Merci Charles pour ce.
c'est un ordre.
Bah oui, mais en plus.
Mais bon, c'est vraiment l'expérience que j'ai tirée de tous mes reportages sur le terrain dans des pays qui ont déjà traversé des crises, pas de cette ampleur évidemment, mais des crises de ce style.
Oui, donc, avec des maladies plus vénères en plus. Ebola, c'est pas sympa. Quoi.
Bah, concrètement, c'est beaucoup moins vénère, mais ça tue plus de gens en termes de pourcentage. Donc voilà, mais une pandémie comme ça, on n'en a pas vécu depuis un siècle. Hein.
C'est, bah oui.
C'est du jamais vu, ça fait très longtemps. Donc voilà, il faut d'autant plus respecter les autorités sanitaires pour ça.
Et on arrive à la fin de cette interview, Charles. Merci beaucoup. C'était trop bien.
Bah, merci à toi de m'avoir reçu, de m'avoir laissé déblatérer.
Mais arrête de dire ça, enfin, ça ne va pas.
Non, mais j'ai toujours l'impression de jamais être clair. C'est horrible, mais je suis vraiment. Tu sais, je suis pas structuré. J'arrive pas à structurer un propos, j'arrive pas à faire des punchlines. De bout en bout, enfin tu vois, je m'arrête jamais.
Mais t'as pas besoin de faire une punchline, tu sais, ici on est dans un podcast, on prend le temps, tu sais, on n'est pas sur les réseaux sociaux, il faut que tout le message passe
c'est
en
vrai.
20 secondes, quoi, tu vois. Le podcast, c'est on vrai. A le temps, on est tranquille, on peut prendre des respirations, on est à la cool, quoi, tu
vois.
C'est
beaucoup plus. C'est cool, c'est vrai que c'est très cool. Mais bon, voilà. J'ai l'impression qu'il faut toujours que je m'améliore, que je m'entraîne sur ma diction et sur comment je raconte les choses.
Écoute, c'est parce que tu m'as pas vu.
Si ça convient, ça convient.
Voilà, j'allais te dire, c'est parce que tu m'as pas vu en face, mais j'étais captivé par ton propos. Voilà, donc je pense que les gens le seront également.
Cool. tant mieux. Mais merci à toi de m'avoir invité.
Avec grand plaisir, je mettrai dans les notes de ce podcast plein de liens pour tous les trucs dont on a parlé et également ton compte Insta si jamais les gens veulent te suivre. Parce qu'en plus, tu fais des lives pour venir parler un petit peu des coulisses de tes documentaires quand ils sortent, etc. Donc c'est hyper intéressant d'avoir en plus cet œil-là des coulisses, quoi.
Merci, c'est gentil. Ouais, j'essaie de raconter un peu les coulisses sur les autres réseaux sociaux. Ça intéresse beaucoup les gens en général, savoir comment je prépare les reportages, comment ça s'est passé sur le terrain. Il y a aussi beaucoup de choses que je ne montre pas dans mes documentaires, soit parce que c'est trop difficile, soit parce que j'ai pas eu le temps de mettre ces témoignages-là. Donc j'essaie de raconter un peu tout ça aussi pour que les gens aient une autre vision du documentaire.
C'est cool. Merci beaucoup, Charles.
Merci Fab.
À bientôt.
À bientôt.
Salut.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.